C'est un passionné d'histoire, ancien militaire retraité, que j'accueille aujourd'hui. Bonjour Philippe Lafargue.
Oui, bonjour.
Merci d'être venu au micro de Radio Présence. Moi, j'espère que vous allez devenir chroniqueur à la rentrée prochaine parce que vous avez énormément de choses à nous raconter, des choses un peu atypiques. Je vous avais rencontré au salon des collectionneurs à Soumoulou l'année dernière et vous aviez fait une expo qui avait un drôle de nom.
Oui, c'était sacré tout bib, en fait. C'était une expo qui était consacrée à des médecins, des pharmaciens et des dentistes, dont on connaît le nom ou dont on connaît la réalisation, mais on ne savait pas qu'ils étaient médecins, dentistes ou pharmaciens, tout
Pharmacien.
simplement.
Et oui, alors j'avais été étonné de voir sacré tout bib et voir l'habit de Sherlock Holmes et
Oui.
la photo d'Agatha Christie. Je me dis, qu'est-ce que ça vient faire là?
Ben oui, parce que tout simplement, Conan Doyle était médecin, Agatha Christie était pharmacienne, Francis Lopez était dentiste. Voilà, donc c'est des gens un peu atypiques qu'on
Voilà,
présentait.
vous aimez, dans les expositions, partir d'un objet qui, en fait, où on se demande qu'est-ce que vient faire cet objet dans le thème qui a été proposé.
Ben voilà, c'est ça, c'est avec mon épouse, donc on aime voilà, que les gens se posent la question, ils viennent pour un thème, ils savent à quoi s'attendre, mais il va y avoir l'objet qu'est-ce que ça fait là? Quel rapport avec l'exposition? Et ben le but, c'est de l'expliquer, c'est d'aller chercher derrière le décor un peu ce qu'il y a, voilà.
Demain, c'est mardi 14 juillet, fête nationale. Et en discutant avec vous, vous aviez fait une présentation déjà sur les fameux hymnes nationaux qui sont passés d'âge en âge, de période en période, jusqu'à qu'aujourd'hui ce soit la Marseillaise. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Alors aujourd'hui, hein, si on connaît la Marseillaise telle qu'on la chante
Bien sûr.
de façon officielle, mais on va remonter un peu, on va repartir depuis le départ. Racontez-nous un peu l'histoire de cette Marseillaise.
Alors, voilà, ben, sous l'Ancien Régime, d'abord, il n'y a pas d'hymne national. Hein. Il y a des chants pour le roi, pour la personne du roi, mais il n'y a pas d'hymne national. Et puis, donc, la période révolutionnaire va arriver. Donc, je passe les détails. Nous arrivons en avril 1792 et à Strasbourg, il y a un officier du génie qui s'appelle Monsieur Rouget de Lisle, Claude Rouget de Lisle. Alors, en fait, ça c'est Claude Rouget, son vrai nom. De Lisle, c'est le nom d'une terre que ses parents avaient achetée dans le Jura, qu'ils avaient accolé au nom de manière à permettre à leur fils de pouvoir entrer, de faire valoir des quartiers de noblesse et d'entrer aux écoles militaires. Donc Claude Rouget de Lisle a quelques notions, bien sûr, de musique, et il se trouve à Strasbourg. Il rencontre le maire de Strasbourg, Dietrich, et bon, ils se rencontrent, ils sont tous les deux francs-maçons, ils sont dans la même loge. Ils vont se rencontrer, et un jour, suite au succès des armées de la République face, enfin, oui, des armées de la République face aux Prussiens, aux Autrichiens, dont on veut fêter la victoire du maréchal Luckner. Donc, Dietrich se tourne vers Rouget de Lisle, lui dit: Monsieur Rouget de Lisle, est-ce que vous pourriez nous composer une chanson, un air pour fêter ça? Alors, bien sûr, mais Rouget de Lisle, une chanson, c'est une mélodie, c'est des paroles. Alors, la mélodie, c'est pas évident à composer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire très simplement ce que va faire Claude Rouget de Lisle, c'est qu'il va aller chercher un peu sur étagère ce qui existe, si on peut dire, et il va s'inspirer d'un air, largement s'inspirer d'un air d'un monsieur qui est Jean-Baptiste Viotti, qui était compositeur à la cour de Marie-Antoinette et qui, 10 ans avant, dans les années, début des années 1780 à peu près, avait composé ceci.
D'ailleurs, cette version est magnifique, elle est légère, elle est.
Alors, c'est voilà, ce que vous venez d'entendre là, ce n'est pas la Marseillaise, c'est la variation en do majeur de Jean-Baptiste Viotti. Donc, c'est une variation pour instrument à cordes, voilà. Et ben, cette variation, alors, vous voyez, il n'y a pas que Rouget de Lisle, cette mélodie, quelques années plus tard, vous voyez, vous l'avez trouvé vous-même joli, va être prise par un monsieur qui s'appelle Grison, Jean-Baptiste Grison également, qui est maître de chapelle à Saint-Omer, et qui va l'utiliser dans une œuvre qu'on appelle Stances pour la calomnie, pour illustrer le drame Esther.
On reconnaît quand même bien.
La mélodie.
Oui.
Et surtout le final qui va arriver.
Donc, on n'est toujours pas à la Marseillaise qu'on chante aujourd'hui.
On n'est toujours pas. Alors, évidemment, les paroles, Rouget de Lisle va s'inspirer de slogans révolutionnaires qu'il va lire. Et alors, dans une nuit un peu euphorique de l'histoire, un petit peu dans la nuit normalement du 24 ou 25 avril 92, va composer cette chanson qui n'a pas de titre encore, qu'on va appeler Chant de guerre, puis après Chant de guerre de l'armée du Rhin dédié au maréchal Luckner. Et alors c'est le maire de Strasbourg. Souvent on voit sur des tableaux Rouget de Lisle le chanter, en fait c'est le maire de Strasbourg qui va l'entonner, et l'adaptation sera faite par son épouse. Voilà. Et
puis du maire de
l'épouse du maire de Strasbourg. Et puis comme beaucoup, il y a beaucoup d'air à cette époque. Ça tombe un peu dans l'oubli. Et nous déplaçons vers le sud. Et dans le sud, du côté de Montpellier, il y a un étudiant en médecine. Un étudiant en médecine qui suit ses idées révolutionnaires, qui s'appelle François Mireur. Et François Mireur trouve cet air entraînant, joli. Et va en faire la promotion, abandonne ses études de médecine. Il va entrer dans, il est officier de la garde nationale, et il va faire la promotion de cet air qui va arriver auprès notamment des fédérés marseillais, qui vont remonter par la suite sur Paris en chantant cette chanson. Toujours avec le maire. Il n'y a pas de titre. Et on va appeler ça, les gens, c'est des Marseillois qui montent. C'est le chant des Marseillois. Voilà. Et dans le chant des
Marseillais.
Ça aurait été des Niçois, ça aurait été des Niçois, ça aurait été des Biterrois, ça aurait été des. Je ne sais pas moi, peu importe. Ce sont des. Voilà. Et donc, nous arrivons à Paris, et ce chant va se faire connaître. Alors, il va être repris. Il va être même mis à la mode. Alors une version un peu curieuse va être écrite pour clavecin par un monsieur qui s'appelle Claude Balastre, qui était musicien à la cour de Marie-Antoinette, et il va vouloir sauver un petit peu sa tête en l'adaptant au clavecin, quoi. On reconnaît bien évidemment la mélodie. Alors c'est surprenant évidemment parce que c'est du clavecin, c'est pas dans le goût du jour, mais c'est comme ça.
Mais là, pour l'instant, ce n'est que de la musique. On n'a pas mis de paroles.
Voilà. Alors, il y a des paroles qui ont été composées, chant de guerre pour la maîtrise. On a les paroles. Il faut savoir que dans l'histoire de la Marseillaise, là on parle plutôt de l'hymne national, là l'histoire de la Marseillaise, il y aura des dizaines de versions de la Marseillaise. Il y aura même une Marseillaise des gastronomes, vous voyez, donc on prend un air et on met les paroles dessus, qu'on adapte, on le verra un petit peu plus loin. Alors, évidemment, il y aura même une Marseillaise avec des paroles écrites par les Carmélites de Compiègne, dessus. Une version qui peut être contestée, mais bon, qui existe. Et puis, la convention va dire, mais voilà, ce n'est pas l'hymne national, ça fait partie de l'air chéri des Français. Mais ce n'est, voilà, c'est un air qui est reconnu parce qu'il est bien chanté par les Français, mais c'est
pas. Il n'y a pas un côté officiel.
Il n'y a pas de côté officiel, voilà. Et puis, nous changeons avançons dans l'histoire, le règne de Napoléon arrive. Napoléon Ier, évidemment, est issu de la Révolution, et lui, pour lui, la Marseillaise, c'est un chant, voilà, ça rappelle une époque qu'il faut calmer. Donc, il va interdire la Marseillaise, et eh bien, on va chanter une chanson, Veillons au salut de l'Empire, qui est une, toujours pareil, l'air va être repris. Ce n'est pas une composition originale. Et donc, ça a été composé, cet air, par un chirurgien de l'armée du Rhin. Voilà, Veillons au salut de l'Empire.
Veillons au salut de l'Empire.
Donc ça devient un peu l'hymne officiel pendant
voilà,
la période de Napoléon Ier.
Là, on est sur le Premier Empire, donc, c'est l'hymne officiel sous le Premier Empire.
Sous
le Premier Empire. La Restauration, alors les deux restaurations vont succéder, avec l'intermède des 100 jours, bien sûr, les deux restaurations vont se succéder. Et là, il n'y a pas véritablement d'hymne sous la Restauration. Alors, il y a quelqu'un qui va revenir, curieusement, c'est Rouget de Lisle. Alors, Rouget de Lisle, qui avait composé le chant de guerre pour l'armée du Rhin, qui est devenu la Marseillaise, donc en 1792, va vouloir se mettre au goût du jour. Et en 1814, il va composer le chant du Jura pour le nouveau régime qu'on va appeler « Vive le roi ». Hein. Donc, c'est un... Voilà, c'est un changement de braquet, si on peut dire. Donc, voilà un petit peu, vous avez entendu 1792, voilà 1814. Voilà.
C'est le même qui a écrit la Marseillaise.
C'est le même qui a écrit la Marseillaise. Là, apparemment, c'est de lui. Alors, petite curiosité régionale, c'est que Vive le roi, qui n'aura pas de succès, va être chanté par un monsieur qui s'appelle Laïs et qui était originaire de un chanteur d'opéra et qui était originaire de la Barthe de Nest.
D'accord. Voilà. De chez nous.
De chez nous. Puis. Alors, sous cette restauration, il n'y a pas d'hymne national. Il va y avoir un chant. Il y a deux chants, un petit peu, qui se font concurrence. Charmante Gabrielle et Vive Henri IV, qui évoque le même roi, qui est un peu régional d'étape, qui est Henri IV. Et donc, voilà un petit peu le chant. Voilà.
Donc ça devient aussi l'hymne pendant quelques temps.
C'est pas. Alors ça n'a pas le
côté officiel.
Ça n'a pas le côté officiel. C'est le. On va dire c'est le chant pour le régime. Voilà. Et alors cet air n'est pas nouveau. Hein, c'est une reprise. Et la mélodie que vous avez vue sera réorchestrée quelques dizaines d'années plus tard par un musicien russe qui s'appelle Tchaïkovski et cette mélodie. Très joliment orchestré, apparaîtra dans la scène finale du ballet La Belle au Bois dormant.
D'accord. Voilà.
Donc, nous sommes à la Restauration. Alors, les deux périodes de 1830 et 1848, les deux révolutions, on va rechanter la Marseillaise. On va rechanter. Ça sera un chant révolutionnaire, hein, puisque c'est pas si vieux que ça. Mais ça ne sera pas officiel. Hein, ça ne sera pas officiel. Et par contre, il y a un monsieur, un Français, qui s'appelle Hector Berlioz, et qui va faire une très belle orchestration de la Marseillaise, notamment en hommage aux morts des Trois Glorieuses. Donc, on va écouter
un extrait
de cette version d'Hector Berlioz. Il y a du coffre.
Dans la musique et dans la voix, bien sûr.
Dans la voix et puis dans les chœurs qui suivent dans quelques instants, vous allez voir pour le refrain. Voilà maintenant les chœurs.
Ça met des frissons. C'est beau.
Ça remue les tripes.
Il réapparaît. Et il est toujours aussi populaire.
Alors, oui, il réapparaît, mais il est toujours pas hymne national. Pourquoi ? Ben parce que après ces périodes insurrectionnelles, 1830 va arriver ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. C'est-à-dire que c'est Louis-Philippe qui n'est pas roi de France, qui est roi des Français. Et donc, Louis-Philippe, la Marseillaise, non, c'est quand même un chant, sa connotation insurrectionnelle, on va pas le prendre. Donc on va s'inspirer d'une... Il faut créer quand même un hymne, un chant, et on va s'inspirer d'un chant que chantaient les soldats allemands, qui partaient combattre avec les Anglais contre les Américains, les Anglais, pendant la guerre d'indépendance. Et on va prendre cette mélodie, on va s'en inspirer, on va prendre des paroles, mettre des paroles dessus, et ça va devenir la Parisienne.
Elle aurait très bien pu être un hymne encore aujourd'hui. Hein. Et on sent quand même un peu la chose militaire. Un peu.
Oui, c'est alors évidemment, bon, c'est chanté d'une manière cadencée.
Oui.
Hein. Alors vous verrez que justement, la manière dont on chante un chant, ça peut être ça peut être entraînant, ça peut être moins entraînant. L'exemple qui suit va nous le montrer. Nous sommes sous le Second Empire. Donc Napoléon, enfin le prince président Louis Bonaparte est devenu Napoléon III et il lui faut un hymne. Donc il ne devait bien sûr pas prendre la Marseillaise que n'avait pas pris déjà son oncle et il va s'inspirer tout simplement d'une romance écrite par sa mère, la reine Hortense dont nous avons le souvenir dans les Pyrénées. Hein. Il y a une colonne qui passe son passage quand on va sur Luce. Voilà. Et la reine Hortense avait composé en partant pour la Syrie. Alors quand on écoute les paroles en partant pour la Syrie, pourquoi ? Parce qu'on avait fait une campagne militaire qui est complètement oubliée en Syrie à cette époque. Et les paroles, c'est plus une prière à Marie par un soldat qui part à la guerre. Donc, en partant pour la Syrie, la première version un peu de salon, part donc sur un air de la reine Hortense.
Maintenant,
c'est un extrait donc de l'hymne que donc Napoléon III a pris pour un peu pour lui, pour son hymne, quoi.
Voilà, c'est devenu, voilà, en partant pour la Syrie, c'est devenu l'hymne du régime, on va dire.
Régime, oui.
Hein, je ne parle pas d'hymne national encore, d'hymne du régime, et après, bon, il va, on va dire, militariser un peu pour ses troupes, voilà. Quelques mesures de la version militaire, on va dire.
Oui, elle est plus solennelle, oui.
Voilà.
Oui.
Donc c'est beaucoup plus
militaire,
oui. Entraînant.
Voilà. Okay.
L'Empire s'écroule, évidemment, guerre 70, puis la période de la Commune. Alors c'est assez paradoxal parce que la Marseillaise, enfin, voilà, va être chantée des deux côtés, à la fois par les Versaillais, avec des paroles classiques, et elle va être chantée par les communards, avec... des paroles adaptées
donc
voici
pour son camp.
Voilà donc eh bien une Marseillaise si on peut dire communarde.
Cette période un peu particulière de la Commune, donc cette mini-révolution sur Paris.
Voilà, il y a eu des répliques, on va dire, qui sont moins connues en province. Curieusement, après, eh ben, la Marseillaise, sous les débuts de la Troisième République, ben, va être, donc on a vu une version communarde, elle va être rechantée, elle va, elle, avoir le... un petit peu l'étiquette de chant nationaliste.
D'accord.
Voilà. Bon, l'histoire avance, donc la Troisième République va arriver, et la Marseillaise, bon, bah, elle va être officialisée, eh bien, le 14 février 1879. C'est à ce moment-là qu'elle devient officiellement l'hymne national.
Des Français.
Voilà, l'hymne national de la France. Ouais. Donc elle va être, eh bien, elle va être enseignée dans les écoles, partout, au service militaire, bien sûr, on chante la Marseillaise, et puis on va la représenter. Alors, cette Marseillaise, c'est bien sûr, c'est un chant, mais elle va apparaître dans la sculpture, on a vu, elle est souvent symbolisée par, dans le départ des volontaires de Rude qui est sur l'Arc de Triomphe, on va la voir, il va y avoir un film de Jean Renoir, la Marseillaise, il va y avoir des timbres à l'effigie de Rouget de Lille, ainsi de suite. Et puis, bon, elle va devenir officiellement l'hymne, vraiment l'hymne national. Là, on a vu des hymnes par rapport au régime, des chants de régime. Là, c'est vraiment l'hymne national. Et puis, donc, alors, sous la période de l'occupation, elle va être interdite en zone occupée, pardon, elle sera, bien sûr, elle chantera, entre parenthèses, si on peut dire, chantée sous le manteau, mais elle sera quand même chantée. Elle va être chantée, bien sûr, en zone libre. Elle cohabitera avec, non pas un hymne national, mais un chant dédié au chef de l'État, qui est un maréchal Nouvola, dont la musique elle-même, l'air n'est pas une composition, c'est une adaptation d'une chanson d'un film, La Margoton du Bataillon, et ensuite qui était devenu l'hymne du Tour de France, La Fleur au Guidon, vous voyez. Donc la musique, ça voyage, hein, c'est la plume au vent, la musique. Et donc, eh ben, notre Marseillaise, elle conduit son chemin, elle est chantée par les militaires, hein, lors des opérations, lors de cérémonies, et puis bien sûr, on est en pays de rugby, alors on ne peut pas mettre sous le boisseau, si on peut dire, la Marseillaise chantée par les rugbymen.
Avec l'orchestre qui, bien sûr, s'est arrêté. Et
voilà.
Et bien sûr, tous les spectateurs qui étaient présents pour un match de rugby, pour cet extrait, chantent a cappella. Donc,
voilà. C'est-à-dire que ça a débuté en musique et puis l'orchestre s'est arrêté. Hein, généralement, les chefs de musique militaire, vous voyez. Les chefs de musique militaire le sentent, si vous voulez, en fonction du public, et ils ont arrêté et ils ont laissé le public continuer. Voilà. Et donc, ben aujourd'hui, ben souvent la version qui est chantée officiellement, c'est souvent celle qu'on a entendue, qui avait été composée par Hector Berlioz et qui est cette version un peu symphonique.
Oui, qu'on a écouté tout à l'heure.
Voilà.
Ben voilà un peu l'histoire, voilà. À cette veille de 14 juillet où effectivement donc la Marseillaise qui vient donc de ces Marseillais qui sont montés à Paris,
voilà, qui vient en fait à la base d'un chant, d'une variation d'une musique de pour un orchestre de chambre.
Oui.
Voilà, qui a été elle-même adapté, qui a été lui-même adapté pour faire rentrer dans une pour illustrer un poème religieux, c'est sur la calomnie d'Esther,
qu'on a entendu.
Esther, voilà, à l'orgue, et ben qui va devenir un chant militaire, un chant militaire qui va changer de titre. Alors, ça va être un peu hésitant, puis en fonction des régimes, on n'en veut plus, on le remplace par un autre. Mais vous avez pu voir qu'à chaque fois, en fait, il n'y a pas de composition originale, on reprend.
Oui.
Une mélodie qui existe quelque part.
Aujourd'hui, on serait dans des procès inimaginables de droits d'auteur qu'on n'imagine même pas.
Voilà, mais en fait, c'est une chose à fait très courante. Il y a un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Gainsbourg, qui reprenait souvent des airs qui existaient à droite à gauche. Mais c'est souvent même une pratique très courante dans le chant militaire. Ça, j'ai un ami, un spécialiste qui s'appelle Thierry Bouzard, qui pourrait vouloir en parler. Où beaucoup de chants militaires en fait passent les frontières, vont d'un pays à l'autre, on change les paroles et c'est ça qui est intéressant avec la musique, c'est très surprenant.
Ouais. La musique, c'est la maison, et puis bien, la maison, bien, si on change la tapisserie, ça change beaucoup l'intérieur.
Et voilà.
Ouais.
Voilà, tout
merci beaucoup Philippe Lafargue, vous êtes passionnant, bien sûr, on vous écouterait des heures. Petit clin d'œil pour cette veille de 14 juillet de fête nationale avec la Marseillaise et l'hymne aujourd'hui national. Vous nous avez fait voyager dans le temps, où elle a été à l'ombre depuis, et puis plus à l'ombre, d'autres chants sont venus remplacer, même si ça n'avait pas un caractère officiel, mais voilà. Et puis jusqu'à aujourd'hui, où bien sûr, sur toutes les cérémonies qu'il va avoir partout en France, on chantera donc la Marseillaise. Un grand merci Philippe Lafargue, je vous souhaite de bonnes vacances, et puis moi j'espère vraiment qu'on se retrouvera pour la saison prochaine, car vous êtes quelqu'un de passionnant, et vous allez nous apprendre plein de choses à travers l'histoire, à travers des objets, à travers la musique aussi, comme on l'a fait aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt.
Eh bien, je vous en prie, à bientôt.